Bon réveil, il est 7h.
Nous faisons une distribution d'eau et de nourriture. On fait un soutien psychologique, on enregistre les gens qu'il faut évacuer.
Le maire de Tende, village sinistré, sur tous les fronts, il faut désormais gérer le quotidien alors que toutes les routes sont coupées. Emmanuel Macron sera sur place cet après-midi. L'appel au secours des entreprises de travaux publics en Bretagne, les appels d'offres ont chuté de 40% et les effets du plan de relance se font attendre. Un code de bonne conduite pour lutter contre les abus sexuels dans l'église, il vient d'être présenté par le diocèse de Strasbourg. Dans ce journal, témoignage exclusif du réalisateur américain Oliver Stone, Trump ou Biden, aucun des deux candidats l'emballe. Et puis le foot, match amical pour les Bleus au Stade de France ce soir. Ils affrontent l'Ukraine, ce qui va leur rappeler des souvenirs de 2013.
Juste après ce journal, le secteur aérien en très grande difficulté, mais pas forcément à terre. L'éclairage éco de Nicolas Barré. Connaissez-vous Mike Pence, le vice-président américain dans le regard international de Vincent Hervouet. L'édito sport de Virginie Fulpin avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est en hélicoptère qu'Emmanuel Macron va rejoindre cet après-midi les villages sinistrés de l'arrière-pays niçois. Et d'abord, Tende dans la vallée de la Roya. Après les pluies diluviennes, les inondations meurtrières, toutes les routes sont coupées et ça ne va pas s'arranger avant plusieurs semaines.
L'envoyé spécial d'Europe 1, lui, a dû marcher 25 km à travers la montagne, au milieu des éboulis, pour pouvoir atteindre la commune de Tende. Malgré le choc, les sinistrés doivent s'organiser pour tous les détails du quotidien. Écoutez le reportage de Jean-Jacques Herry.
À Tende, quand la nuit tombe, le bruit des hélicoptères disparaît, cédant la place à celui des groupes électrogènes. 5 jours après les intempéries, seules quelques maisons ont retrouvé l'électricité. Toujours pas d'eau non plus et dans les rues on croise des ombres, tenant à la main des jerrycans d'eau remplis aux camions-citernes de la mairie. L'eau potable, elle, arrive par hélicoptère comme les denrées alimentaires. Tout est distribué à la salle des fêtes où s'organise la vie de la commune depuis samedi, explique le maire de la ville, Jean-Pierre Vassallo.
Tout le monde est obligé de passer par ici. Nous faisons une distribution d'eau et de nourriture. On fait un soutien psychologique, on enregistre les gens qu'il faut évacuer prioritairement par les hélicoptères.
C'est ici aussi que viennent manger les pompiers et les équipes de secours. Des repas préparés gratuitement par les restaurateurs de la ville qui se relaient pour cuisiner avec les moyens du bord, explique Coralie, la patronne du restaurant Le Miramonti.
Maintenant, les gens nous amènent leurs denrées qui ou se décongèlent ou encore congelées pour que nous, on puisse faire cuire et après redistribuer voilà, nos repas d'un côté ou d'un autre.
En parallèle, depuis 2 jours, les ravitaillements et les hélicoptères sont beaucoup plus réguliers. Mais pas encore de quoi faire oublier le ressentiment amer des premières heures, partagé par tous les habitants de la vallée de la Roya, celui d'avoir été les grands oubliés de cette catastrophe. Tende, Jean-Jacques Herry.
Ce matin, le Conseil des ministres va déclarer l'état de catastrophe naturelle pour les communes sinistrées. Emmanuel Macron est donc attendu dans les Alpes-Maritimes à partir de 15h, Tende, puis Breil-sur-Roya et Saint-Martin-Vésubie. Il terminera sa visite dans la soirée au centre opérationnel installé à la préfecture de Nice.
Espoir d'une libération imminente pour Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde.
Oui, selon sa famille, cette femme de 75 ans pourrait retrouver la liberté après 4 ans de détention au Mali, mais les autorités françaises comme maliennes refusent pour l'instant de confirmer.
On ne parle pas beaucoup de la situation des entreprises de travaux publics en ce moment. Et pourtant, elles sont de plus en plus inquiètes pour leur avenir.
En Bretagne, par exemple, où le secteur fait vivre 12 000 salariés, les incertitudes sanitaires, politiques et économiques ont fait chuter les commandes des collectivités locales et les patrons n'ont quasiment plus de visibilité à court terme. À Saint-Malo, écoutez le reportage de François Coulon.
Ils n'ont jamais connu une telle série noire, aucun chantier pendant le confinement, des élections municipales retardées et donc une commande publique gelée, enfin le bouquet.
Des élus qui ont été renouvelés à plus de 50% avec des tendances écologistes, tout ce qui est travaux routiers sont mis de côté.
Raymond Armange, président des entrepreneurs de TP d'Ille-et-Vilaine.
Il y a une chute catastrophique des appels d'offres, 40%, facile. On est très très inquiet. C'est pour cette raison qu'on rencontre tous les élus, qu'on essaie de tirer la sonnette d'alarme pour le dire.
Les nouveaux élus hésitent à lancer de grands investissements en pleine crise, malgré le plan de relance gouvernemental. François Coville, patron des travaux publics bretons.
On remercie entre guillemets le gouvernement d'avoir mis 3 ou 4 milliards d'euros sur la table pour permettre de relancer l'activité travaux publics. Mais dans les faits, aujourd'hui, on n'est que dans les annonces et les appels d'offres ne sortent pas. Le problème, c'est que les entreprises, c'est pas le temps de l'administration et que nous, on n'a pas le temps d'attendre 3 mois, 6 mois, 9 mois avec nos salariés sur les bras et qu'il faut absolument que ça se traduise immédiatement par du réenclenchement de la commande publique.
Si rien ne bouge, on va droit dans le mur et 12 000 emplois bretons sont concernés, s'inquiète François Coville. Saint-Malo, François Coulon, Europe.
Alors si dans le bâtiment, le télétravail est impossible, en revanche, le gouvernement incite fortement les entreprises qui le peuvent à laisser leurs salariés à la maison, surtout dans les zones d'alerte.
Bonjour Olivier Samin.
Bonjour.
Alors, le télétravail autant que possible, consigne du gouvernement, mais est-ce qu'un salarié peut l'exiger ?
Eh bien, en droit, c'est l'employeur qui a la main. Et s'il considère que ça nuit au fonctionnement de son entreprise, il peut refuser de mettre en place le télétravail. Sauf, évidemment, si un accord signé avec les syndicats en dispose autrement. L'exception, il y en a une, concerne les salariés vulnérables qui, eux, peuvent exiger de travailler à la maison. Un employeur a le droit d'accepter le télétravail pour certains de ses salariés et de le refuser pour d'autres. Mais dans ce cas-là, il doit expliquer très précisément les raisons de son refus et s'expose, si ces raisons ne sont pas objectives, à un procès en discrimination. Ça donc, c'est le droit. Mais la crise sanitaire est en train de rebattre les cartes. Les avocats qui conseillent les entreprises commencent à les mettre en garde contre les contentieux qui pourraient surgir si des salariés à qui on a refusé le télétravail contractent le virus. Le lien de cause à effet ne sera pas évident à établir, c'est vrai, mais, disent les juristes, ça n'empêchera pas la mise en cause de la responsabilité civile et pénale de l'employeur qui, rappelons-le, doit protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
Olivier Samin, le retour des néonicotinoïdes validé à l'Assemblée, mais avec une contestation record dans la majorité. 32 députés En Marche ont voté contre, 36 se sont abstenus. Cet insecticide accusé de tuer les abeilles est autorisé jusqu'en 2023 pour sauver la filière betterave.
7h07 sur Europe 1. On va maintenant parler de la lutte contre les violences sexuelles au sein de l'Église. Face à ce fléau, le diocèse de Strasbourg, très en pointe en la matière, vient de publier un code des relations pastorales.
Oui, c'est une sorte de mode d'emploi pour prêtres et laïcs dans une région où le nombre de signalements continue à augmenter. Arthur Elmbaché.
Toujours plus nombreuses, les victimes parlent. Rien qu'en Alsace, il y a aujourd'hui en cours d'examen 104 dossiers de violences sexuelles dans l'église, nous dit l'archevêque de Strasbourg, Mgr Ravel. 104 dossiers, combien concernent des prêtres en exercice ?
Beaucoup. Quand les prêtres sont prévenus, entre autres par la justice, alors à ce moment-là, je prends immédiatement des mesures qui font que le prêtre n'a plus aucun ministère comme prêtre, ni pour les baptêmes, les mariages, les messes, enfin rien, pas seulement auprès des enfants, mais bien entendu auprès des enfants.
Le diocèse publie donc cet automne une série de textes, un code de 15 pages sur les relations prêtres-fidèles ou encore un guide pour aider les prêtres ou les catéchistes à repérer les troubles d'un enfant victime. Susanna Kelly, religieuse d'origine américaine, est en charge de ces questions ici. À Strasbourg.
Je pense qu'un aspect qui est particulier à Strasbourg, c'est l'accompagnement dans le long terme de la victime dans sa démarche judiciaire, psychologique et spirituelle.
L'archevêché a conclu pour les victimes une convention avec le centre psychotraumatique des hôpitaux de Strasbourg et pour le volet enquête, un protocole avec les parquets des tribunaux de la région. Strasbourg, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Un gigantesque incendie cette nuit à Marseille. Le feu a pris dans un garde-meuble de 10 000 mètres carrés pour une raison encore inconnue. Pas de blessés ni d'évacuation, mais une centaine de pompiers mobilisés pour éteindre les flammes.
Direction maintenant les États-Unis où l'on attend ce soir le tout premier débat entre candidats à la vice-présidence. D'un côté, la démocrate Kamala Harris et de l'autre, le républicain Mike Pence.
Et en pleine campagne électorale américaine, il faut entendre la voix du réalisateur Oliver Stone, dont on connaît le franc-parler. Il sera samedi matin l'invité de Michel Denisot sur Europe 1. Donald Trump ou Joe Biden, pour lui, impossible de choisir.
Je ne peux pas voter pour Trump pour une simple raison. À cause de son attitude par rapport à l'immigration, cette histoire de mur, c'est idiot, c'est stupide, parce que l'immigration, c'est l'âme de l'Amérique. Deuxièmement, pour le climat, son attitude par rapport au climat est absolument répugnante. Il aide l'industrie du pétrole et puis, pour lui, il idolâtre le charbon. Mais le charbon, c'est fini, il ne faut plus l'utiliser.
C'est un désastre pour le monde, un désastre complet.
Donc, pour ces raisons, je ne pourrais pas voter pour Trump. Quant à Biden, bon, c'est un démocrate, il va faire la guerre. Les démocrates, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Comme Obama en Libye, ils trouvent toujours un pays à bombarder. Donc, je n'ai pas beaucoup d'espoir dans Biden. J'aime pas beaucoup la façon dont il parle de la Chine, de la Russie, de l'Iran. L'Amérique est entourée d'ennemis. C'est des gens qui sont cinglés, mais en fait, l'Amérique devrait faire la paix avec le monde au lieu de lui faire la guerre.
Vous êtes inquiet pour l'Amérique ?
Beaucoup, yes.
très inquiet pour l'Amérique. Oliver Stone au micro de Michel Denisot. Interview événement à retrouver dans son intégralité dès vendredi 17h sur Europe1.fr et samedi matin à 8h45.
7h10, une toute petite pause. Et nous parlons de France-Ukraine, match amical ce soir qui rappellera de bons souvenirs aux Bleus.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h11 sur Europe 1. Le match aurait dû se dérouler en mars. France-Ukraine, c'est ce soir au Stade de France.
Oui, avec une équipe ukrainienne d'ailleurs décimée par le Covid. Elle doit se passer de 8 joueurs. Pour les Bleus, c'est un retour à Saint-Denis, 3 semaines après leur victoire contre la Croatie. C'est aussi une rencontre qui leur rappellera forcément quelques souvenirs. Cyril de la Morinerie.
19 novembre 2013, les Bleus arrachent leur qualification in extremis pour la Coupe du Monde. C'est 7 victoires. Qui a permis de lancer la grande histoire. Sans ce succès, Didier Deschamps aurait très vraisemblablement dû rendre son tablier.
Ça aurait pu tout s'arrêter. Ben, si on ne se qualifiait pas, ben, on n'était pas en Coupe du Monde. Donc forcément, je ne suis pas sûr que je serais devant vous aujourd'hui pour parler de l'actualité du moment.
Bien sûr, Mamadou Sakho, auteur d'un doublé ce soir-là, et Karim Benzema ne sont plus en équipe de France, mais d'autres héros de 2013 ont pris le relais. Loris, Varane, Pogba ou encore Olivier Giroud. L'attaquant de 34 ans sera titulaire ce soir et fêtera même sa 100e sélection.
C'est un beau chiffre, 100, mais j'ai encore de belles années devant moi. Donc si je peux apporter quelque chose à l'équipe, je compte bien continuer.
7 ans après cet exploit, les Bleus doivent en revanche jouer sans leur public en raison de la crise sanitaire. Ce soir, seulement 1000 spectateurs prendront place dans les travées du Stade de France.
France-Ukraine, coup d'envoi à 21h10.
Merci Hélène Zélani. 7h12 sur Europe 1. Vous l'avez entendu dans le journal avec notre envoyé spécial qui a rallié Tende par la montagne. La ville est complètement coupée du monde. C'est à pied ou en hélicoptère qu'on y accède. Les routes effondrées, les voies ferrées recouvertes de roches. Les habitants en mode survie. Survie et solidarité, comme cette infirmière que nous appellerons à 7h40. Elle s'appelle Françoise. Après 5 jours d'isolement, son témoignage dans le tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1.
Et maintenant, l'éclairage éco vous est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
L'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le transport aérien est-il condamné? Les derniers chiffres de l'Association internationale du transport aérien sont alarmant. De très nombreuses compagnies ne sont qu'à quelques mois du dépôt de bilan.
Oui, ça donne le vertige. Effectivement, les compagnies aériennes brûlent 300 000 dollars par minute, 13 milliards par mois. Dans leur ensemble, elles n'ont que 8 mois et demi de trésorerie devant elles avant la cessation de paiement. Bref, malgré des aides massives des États, 160 milliards au niveau mondial, et ce n'est pas fini, le secteur reste extrêmement mal en point. Il faut dire que le trafic n'est toujours pas revenu. Hein. On est à 70 ou 80% en dessous de ce que c'était avant la crise du Covid. Les aéroports sont vides, les tableaux d'affichage sont clairsemés.
Cela signifie que les États vont devoir encore passer à la caisse l'année prochaine.
Oui, alors c'est d'ailleurs ce que demande Air France KLM déjà aux États français et néerlandais, et ils ne sont pas les seuls. La question à se poser, c'est est-ce que les États feront un bon pari en continuant à soutenir les compagnies aériennes? Autrement dit, est-ce qu'il y a encore des raisons de penser qu'on retrouvera un jour le niveau de trafic qu'on connaissait avant la crise? Eh bien, il y a de bonnes chances que oui. Malgré toutes les crises, en effet, le transport aérien n'a cessé de se développer depuis un demi-siècle. Je vous cite 3 chiffres. 108 millions de passagers dans le monde en 1960, 108 millions, 1 milliard en 2000, 4 milliards et demi l'an dernier. Que ce soit après les attentats du 11 septembre, la crise du SRAS en Asie, la crise financière de 2008 et d'autres crises, le transport aérien s'est toujours relevé pour des raisons de fond qui sont toujours là. La classe moyenne mondiale augmente, de plus en plus de gens ont les moyens de prendre l'avion, et puis autre raison de fond, le monde est de plus en plus urbanisé. Or, les 2/3 du trafic aérien provient de grandes métropoles. Et cette tendance va se poursuivre.
Notamment en Asie.
Oui, sur les 2 à 3 milliards de passagers supplémentaires qu'on attend dans les 15-20 ans qui viennent, les 2/3 seront issus de pays émergents et surtout de Chine et d'Inde. Les écolos qui s'opposent à la croissance du trafic aérien sont en Europe, mais la croissance est en Asie et elle va rester très forte là-bas dans les années qui viennent. Les compagnies aériennes, vous le voyez, sont au fond du trou en ce moment, mais leur avenir n'est pas du tout aussi noir qu'on pourrait l'imaginer.
Merci Nicolas Barré, 7h16. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce soir, deuxième débat télévisé de la campagne américaine, celui des vice-présidents. Kamala Harris, démocrate, promet un réquisitoire contre Mike Pence. Ce ne sera pas si facile. Il a du métier et son heure a sonné.
Mike Pence pensait à la présidentielle alors qu'il n'avait pas encore 10 ans et pas de poil au menton. Il collectionnait les photos de Kennedy, il était catholique, il était démocrate. Aujourd'hui, il est républicain et protestant. Il collectionne les photos avec Donald Trump et il pense toujours et forcément à devenir président parce qu'avec le Donald, tout peut arriver, coronavirus ou pas. Sur les photos, l'un à l'arrêt sur le côté, les cheveux blancs bien peignés, et l'autre une tignasse improbable. Mike Pence est lisse, positif, policé, un vrai politicien. Sa première campagne, il y a 30 ans, sa première élection en l'an 2000, la Chambre des représentants, puis gouverneur de l'Indiana. C'est un professionnel. Il s'est fait connaître dans l'Indiana en animant le Mike Pence Show, 2 heures par jour, 5 jours par semaine, diffusé sur 19 radios, et ça pendant des années, il connaît la com, il forge lui-même ses slogans de campagne, il est bon en duel, Kamala Harris aura du fil à retordre.
Il se définit comme chrétien, conservateur, républicain, dans cet ordre.
Quand il est allé au Vatican au début de l'année, le pape François l'a remercié pour son engagement en faveur de la vie, c'est-à-dire contre l'avortement. Mike Pence a même entraîné Donald Trump à la marche pour la vie. On peut y voir de l'opportunisme. En même temps, aucun de leurs prédécesseurs n'avait fait cela. Il y a plus de quoi apprendre que de voir à récolter. Les médias harcèlent Mike Pence sur les questions sociétales, alors qu'il est intarissable sur l'emploi et sur l'éducation, qu'il s'est distingué au Congrès en étant debout sur les freins pour empêcher le gouvernement d'imposer plus d'État, plus de dépenses et plus d'impôts.
Vous dressez le portrait d'un vrai conservateur.
Le New York Times avait titré « Le parfait conservateur ». Il s'est hissé à la tête du parti parce que le parti républicain, peu à peu, s'est rallié à son point de vue. Il est populaire auprès d'une moitié de la population parce qu'il la rassure sur la permanence des valeurs traditionnelles alors que l'Amérique traverse une profonde crise d'identité. Donald Trump en est d'ailleurs le symptôme. Ces deux-là étaient faits pour s'entendre.
Merci Vincent Hervé. 7h19, France-Ukraine ce soir, entre les blessures et les contaminés Covid. Pourquoi joue-t-on ce match ? L'édito sport de Virginie Fulpin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h21, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
L'équipe de France de foot affronte l'Ukraine ce soir en match amical au Stade de France. Pour vous, on ne devrait pas jouer ce match ?
Franchement, il sert à quoi ce match ? Je sais, il est dans le sacro-saint calendrier international, déjà très perturbé cette année, donc on le joue, comme dirait Didier Deschamps, certes. Mais dans les conditions actuelles, je ne vois pas trop l'intérêt. À quoi va ressembler l'équipe d'Ukraine en face des Bleus ? Avant même d'arriver en France, il y avait déjà 12 Ukrainiens sur le carreau, 6 blessés et 6 à cause de la Covid. 2 joueurs positifs plus 4 cas contacts. Et depuis hier, et de nouveaux tests effectués dans un laboratoire français, 2 positifs en plus, 2 gardiens. Ça veut dire que le sélectionneur ukrainien Andrei Shevchenko n'en a plus qu'un à sa disposition. Enfin, il en a vite fait revenir un autre en catastrophe. C'est sûr, on est encore dans les clous de l'UEFA qui réclame 13 joueurs disponibles, dont un gardien pour maintenir la rencontre. Mais ça sert à quoi ? C'est plus vraiment une opposition digne de ce nom hein, pour l'équipe de France. Alors d'accord, les Bleus vont pouvoir faire quelques réglages, certains vont avoir du temps de jeu, et puis ça va permettre à Olivier Giroud d'intégrer le club fermé des joueurs aux 100 sélections en équipe de France, tant mieux. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle ? Avec tous ces cas positifs, il y a aussi Léo Dubois, côté français, qui a été placé à l'isolement. Il va forcément y avoir un peu d'appréhension. Pourquoi prendre des risques pour un match qui compte pour de beurre ? Moi, je n'ai pas forcément envie de voir un cluster amical.
En plus, l'équipe de France a de vrais matchs à jouer après celui-là.
En une semaine, les Bleus vont enchaîner 2 autres rencontres contre le Portugal et la Croatie. Mais oui, ces matchs-là comptent pour la Ligue des Nations. Donc, je ne vois pas l'intérêt de surcharger un calendrier qui est déjà assez costaud tout en prenant des risques. À qui ce match va apporter de la satisfaction ? Pas aux joueurs, ils ont d'autres chats à fouetter. Certainement pas à leur club, qui n'aime déjà pas trop les trêves internationales en temps normal et qui se méfie encore plus en ces temps de crise sanitaire. Et pas non plus au public, vu qu'il n'y en a pas. Enfin si, 1000 spectateurs perdus dans le Stade de France et ses 80 000 places sous la pluie en plein milieu de la semaine, ouais, ça donne l'eau à la bouche. Donc on prend des risques pour une rencontre sans véritable intérêt sportif et je trouve ça dommage, il n'y a qu'une raison en fait pour que ce match ait lieu. Les droits télé et les sponsors, oui, on en revient toujours au même constat.
Merci Virginie Fulpin. Puis tiens Virginie, je vous garde, écoutez ça. Je ne joue pas au blind test avec vous, évidemment, Virginie. L'hymne de l'Olympique de Marseille, l'hymne du stade Vélodrome. Le hard rocker Eddie Van Halen est mort à 65 ans. Van Halen, cette chanson Jump, jouée depuis 1986 à l'entrée des joueurs de l'OM sur le terrain. 7h24 sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Stéphane Bern. Comme tous les matins, on va parler d'histoire. Bonjour mon cher Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est la deuxième saison que vous présentez la matinale d'Europe 1. Et ce matin, je voulais évoquer l'expression « jamais deux sans trois ». J'espère qu'elle vous portera chance.
Je vais garder cette chronique.
Au XIIIe siècle, on disait « tierce fois c'est droit ». Une façon de dire qu'on ne peut pas faire quelque chose correctement en une fois, mais que la répétition amenait un certain savoir-faire. Certains linguistes pensent que « jamais 203 » venait d'un jeu où cette expression était la règle principale, un jeu qui aurait depuis totalement disparu. Bon, nous voilà bien avancés.
3, c'est un chiffre qui n'est pas anodin dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de religions.
Oui, absolument Mathieu, c'est un chiffre mythique. Chez les chrétiens, la Trinité est très présente. Et en Chine, le chiffre 3 apporte la chance, car la façon de dire chance se prononce de la même façon que le mot vivant. Never twice without thrice.
Oh,
en
joli,
Angleterre,
joli,
l'expression
pardon.
Est courante, comme en Argentine.
C'est imprononçable, never oui. twice
without thrice. En Argentine, on dit no hay dos sin tres, tout comme en Hongrie, où là, il faut absolument me croire sur parole. Au début du siècle dernier, le poète surréaliste Benjamin Perret disait cette très belle phrase : il faut être deux pour être trois. Et pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous offrir ce proverbe corse au relent sexiste, malheureusement. Trois marmites, c'est une grande fête. Trois femmes, c'est une tempête. Mais j'avoue, moi, je préfère la tempête.
Hier, c'était Pierre Perret. Aujourd'hui, c'est Benjamin Perret.
Oui, c'est pas les mêmes.
On vous retrouve à 16h, Stéphane.
Oui, pour parler d'histoire, mais sans se la raconter. On se lève et on se casse. Enfin, nous, on reste là. Ce sont eux qui sont partis et qu'on réunit aujourd'hui. Édouard VIII qui a renoncé au trône d'Angleterre pour une femme. Le pape Benoît XVI qui a démissionné et balancé les clés de Saint-Pierre. Et Jean-Pierre Pernaut qui quitte son fauteuil du trésor. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter. Tout à l'heure avec mon complice Mathieu Noël, 16h-18h sur Europe 1.
À tout à l'heure Stéphane.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h26, on se retrouve dans quelques secondes avec Sophie Echen pour l'info. Laurent Cabrol, la météo, bon réveil. Europe 1. 7h29, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Et il a plu, les routes sont mouillées, vous le savez, puisque des accidents, j'en parlais tout à l'heure, ont été relevés aujourd'hui, une dizaine d'accidents ce matin. Attention, soyez vigilants, les routes sont encore mouillées, mais le soleil revient. Alors c'est un soleil, on va dire éphémère, hein. Il ne reviendra que quelques heures. Profitons-en, Paris sera sous les éclaircies, pas de soleil, les éclaircies, comme le Nord, la Picardie, le Mâconnais, le Delta du Rhône. Et puis quelques ondées en Lorraine, Alsace et Franche-Comté, et près de l'Atlantique, ce sera aussi un ciel le plus souvent nuageux, avec une ou deux pluies, pas plus. Les températures maximales ont tendance à grimper, entre 16 et 23 degrés. Bon, c'est pas mal. 17 à Paris, 19 à Bordeaux et 23 à Nice.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
C'est très très tard. Merci beaucoup.
Très très tard, 1h25 du matin précisément, Raphaël Nadal s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros, une victoire au beau milieu de la nuit. Nicolas Sarkozy, encore entendu aujourd'hui par les juges qui enquêtent sur les soupçons de financement libyen de sa campagne en 2007. L'appel à l'aide des professionnels de l'événementiel, le secteur est frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Et puis jackpot pour 4 jeunes SDF de Brest. Ils ont remporté la modique somme de 50 000 euros grâce à un jeu à gratter offert par une passante.
Juste après ce journal, dans le huis clos du village de Tende, dans l'arrière-pays niçois, coupé du monde depuis 5 jours, le témoignage de Françoise Vada, infirmière à Tende, le tête-à-tête Europe Matin. Veolia s'est passé de l'accord de l'État pour racheter Suez. L'État n'est rien de plus qu'un actionnaire comme les autres. C'est l'édito politique de Nicolas Bétou. Juste avant, Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Ce matin, Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le match le plus tardif de l'histoire de Roland-Garros. Ce record-là, Rafael Nadal ne l'avait pas encore jusqu'à la nuit dernière. L'Espagnol a battu le néophyte italien Yannick Sinner, 19 ans, en 3-7. Entrée sur le court, 22h36, victoire un peu moins de 3 heures plus tard. Le récit de cette rencontre inédite avec Axel May.
Rafael Nadal.
Ils ont bravé le froid. 400 spectateurs étaient présents hier soir pour assister à l'entrée sur le terrain de Rafael Nadal, venu disputer le 100e match de sa carrière, porte d'Auteuil, en short et t-shirt. Quand en face, le jeune Italien Yannick Sinner, 19 ans seulement, a sorti les manches longues. Sinner, faux air de Jim Courier avec ses cheveux roux, joue crânement sa chance, lui qui découvre le tournoi parisien. Nadal remporte le premier set au tie-break. Puis gagne 6-4 la deuxième manche. Edouard, le traditionnel chapeau de Roland-Garros sur la tête, a prévu le plaid et se régale.
Il y a un côté un petit peu surréaliste parce que d'abord le match est très beau, les deux joueurs sont excellents et puis il y a peu de public, il y a une atmosphère assez inattendue on va dire.
Dans le dernier set, Rafael Nadal, l'homme aux 12 victoires finales à Roland-Garros, fait parler son expérience, 6-1, il est 1h25 du matin, match le plus tardif de l'histoire du Grand Chelem parisien.
Merci beaucoup à tout le monde ici, c'est très très tard.
Rafael Nadal explique alors en anglais qu'il a maintenant 2 jours pour se reposer, ou plutôt, dit-il avec humour, seulement une journée et demie.
Merci beaucoup à tous.
Voilà, vendredi, donc Rafael Nadal affrontera l'Argentin Diego Schwartzmann, victorieux hier contre Dominic Thiem. Là aussi, au terme d'un duel hors norme, 5 heures et 8 minutes de jeu, soit le quart de finale le plus long de l'histoire de Roland-Garros.
Dans l'actualité de ce mercredi 7 octobre, Nicolas Sarkozy a de nouveau rendez-vous avec la justice dans l'affaire des financements libyens de sa campagne, des présumés financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007.
L'ancien président a déjà été entendu toute la journée d'hier. Son audition reprendra tout à l'heure et Guillaume Bié, elle pourrait déboucher sur des poursuites supplémentaires.
C'est la première fois que Nicolas Sarkozy s'explique longuement devant les juges. Jusqu'à présent, l'ancien président refusait de répondre à leurs questions parce qu'il contestait la validité de cette enquête dans laquelle il est mis en examen depuis 2 ans et demi pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. Le mois dernier, son recours a finalement été rejeté. La procédure est validée. Alors, les nouveaux juges d'instruction l'ont convoqué et l'interrogent sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle 2007, moment démenti par l'ancien chef de l'État. Dans ce dossier aux indices contestés par la défense, les éléments troublants continuent pourtant de s'accumuler. Ainsi, en janvier dernier, Thierry Gobert, ancien collaborateur proche de Nicolas Sarkozy, a été mis en examen pour association de malfaiteurs. Des fonds libyens, près de 500 000 euros, auraient transité sur son compte aux Bahamas et auraient ensuite alimenté la campagne présidentielle. C'est ce que soupçonnent les juges et c'est ce qui pourrait valoir une mise en examen supplémentaire à Nicolas Sarkozy.
C'est un autre président qui est attendu dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui, Emmanuel Macron, attendu par les rescapés des vallées de la Roya et de la Vésubie.
5 jours après les pluies diluviennes qui ont dévasté l'arrière-pays niçois, le chef de l'État se rendra au chevet des habitants qui ont tout perdu, alors que 4 communes sont toujours inaccessibles, coupées du monde, la Brigue, Tende, Sorge et Fontan. Ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement décrétera l'état de catastrophe naturelle pour les villages sinistrés.
La reprise rapide de l'économie prendra plus de temps que prévu, finalement. Si l'on en croit les dernières prévisions de l'INSEE publiées hier soir.
Recul de la croissance française de 9%, un taux de chômage qui explose à près de 10%. Et parmi les secteurs les plus durement touchés, celui de l'événementiel qui se projette déjà sur des annulations à plus long terme.
Il faut dire que dans les zones d'alerte maximale, les dernières restrictions sanitaires n'arrangent rien. Interdiction des foires, des salons professionnels, des congrès pour au moins 15 jours. Difficile à encaisser pour les professionnels qu'a interrogé Jean-Gabriel Bourgeois.
Chaque fois, on pense qu'il y a une reprise et en fait, ça s'arrête net.
Cynthia est agent technique dans les salons. Elle avait recommencé à travailler depuis la rentrée, mais tout a été stoppé une nouvelle fois. Ce n'est pas encore demain qu'elle retrouvera les allées de Villepinte ou de la Porte de Versailles. Avec son statut d'intérimaire, pas d'aide du gouvernement. Pour elle, octobre signifie chômage.
Là, c'est un peu critique. Je pense qu'on perd entre 500 et 1000 euros facile tous les mois. Donc, ça nous coupe un peu l'herbe sous le pied, quoi. Donc la reprise, on parle plus maintenant de mars. Donc c'est quand même 2021, c'est dans quelques mois. Donc ça, c'est assez inquiétant.
Pas de retour à la normale avant plusieurs mois. C'est la crainte des professionnels du secteur. Olivier Roux préside l'Union française des métiers de l'événement.
De ne pas avoir de visibilité aucune, c'est une vraie grosse inquiétude. On sait que nos activités, pour grande partie, sont déjà pliées, c'est-à-dire reportées ou abandonnées sur la fin de l'année, mais même aussi au début de l'année 2021. J'ose espérer une reprise d'activité, deuxième semestre 2021.
Il estime déjà à une 30 milliards d'euros les pertes directes et indirectes de l'annulation des foires, congrès et salons.
7h36 sur Europe 1. La belle surprise pour 4 jeunes sans-abri qui remportent la modique somme de 50 000 euros grâce à un ticket à gratter.
Ça s'est passé à Brest, dans le Finistère. Ils faisaient la manche devant un bar tabac quand une passante leur a offert un jeu à gratter. Et là, c'est le banco pour ces 4 SDF qui ont décidé de se partager la somme, 12 500 euros chacun. Écoutez la joie de Dominique Pierre, le gérant du bar tabac.
C'est un grand moment d'émotion, si vous voulez, parce que d'un côté, il y avait un peu l'incrédulité, la joie, quelques larmes aussi, parce que bon, ce sont des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans à peu près, qui sont pour certains depuis très longtemps dans la rue, des jeunes fort sympathiques. Ils étaient solidaires ensemble, parce que ce sont 4 jeunes qui sont tout le temps ensemble et qui ont vu la chance et le bonheur frapper un petit peu à leur porte, peut-être une nouvelle chance de redémarrer dans la vie. Et il parlait tout de suite, bien évidemment, des projets qu'il pouvait avoir. Prendre un bon repas, aller dormir à l'hôtel, se laver, acheter des vêtements et quitter Brest, quitter la ville. C'est une somme, effectivement, qui va changer leur vie.
Des propos recueillis par Romain Oquet. Et puis, on parlait au début de ce journal du match nocturne de Rafael Nadal. Vous l'avez entendu, c'était le 100e match à Roland-Garros pour l'Espagnol. Et bien, ce soir, c'est Olivier Giroud qui enfilera le maillot tricolore pour la 100e fois. Les Bleus affrontent l'Ukraine en match amical au Stade de France. Coup d'envoi à 21h10.
Merci Sophie Echen. Vous êtes sur Europe 1, il est 7h37.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi controversé sur les néonicotinoïdes. Les écologistes vont debout, ça vous le savez, mais même la majorité est divisée sur la question. À 8h15, Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, l'invité politique d'Europe Matin, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Mais tout de suite, 5 jours après les intempéries, le village de Tende coupé du monde, les routes, les voies ferrées inutilisables, le réseau télécom, l'eau, l'électricité, tout est à plat. Notre envoyé spécial, Jean-Jacques Herry, a marché 25 km dans la montagne pour atteindre Tende. Grâce à lui, vous allez pouvoir entendre le témoignage de Françoise, habitante de la commune, infirmière et donc mobilisée pour aider sur place. Le tête-à-tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin. Le 7-9.
7h40 sur Europe 1. Après les pluies diluviennes qui ont frappé l'arrière-pays niçois, nous vous emmenons dans le huis clos de Tende, village de 2000 habitants, coupé du monde. Emmanuel Macron s'y rend aujourd'hui en hélicoptère. Et déjà, je vous propose ce matin d'écouter le témoignage de mon invité, Florence Vada, infirmière, conseillère municipale de Tende.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Françoise Vada.
Oui, bonjour.
Cinq jours après ces intempéries, c'est très compliqué sur place, le village isolé, les routes coupées. Vous avez retrouvé l'électricité ce matin ?
Non, ce matin, on n'a encore pas l'électricité. On n'a encore rien. Voilà, pas d'eau, pas d'électricité. On a encore un peu le réseau, je ne sais pas jusqu'à quand, parce que des fois, il s'en va. Hier, il est parti pendant toute la nuit, et puis voilà. Donc... on vit un peu... Là, on vit, c'est plus de la survie au jour le jour. Hein, au jour le jour. Et à l'hôpital, samedi, on n'avait même plus les moyens d'appeler les médecins de garde si on avait un problème. On devait leur courir après pour... si on avait besoin d'eux.
Vous êtes infirmière, hein, je le rappelle. Vous avez évidemment travaillé directement à l'hôpital après cette nuit d'horreur.
Moi, quand je suis arrivée à 6h30, dans le hall de l'hôpital, ils avaient mis tous les patients couchés comme ils pouvaient sur des matelas, sur des palettes, sur des lits, tout ce qu'ils avaient pu récupérer dans la nuit. Et ben là, c'était l'apocalypse. Mmh. Il y avait les patients dans le hall, les patients qui étaient au premier étage, il y en avait au deuxième, il y en avait au troisième. C'était l'urgence. Hein. Pas d'eau. Et
une grande solidarité sur place.
Tout à fait. Oui, grande solidarité, les infirmières, les aides-soignants, ils ont travaillé le lendemain. Enfin, c'était physiquement, moralement, très très dur.
Au moment où on se parle, Françoise, vos enfants ont été élitreillés, évacués, je crois.
Tout à fait, mardi matin, donc hier matin. Et ils ont pris l'hélicoptère et puis ce matin, ils devaient partir... à l'école tous les deux, voilà. Après une bonne douche, un peu de repos, un peu une vie un peu normale, quoi. Appuyer sur le bouton pour avoir de l'électricité, la douche, des choses simples. Bon, après, ça fait mal au cœur. Hein. Moi, hier matin, j'étais en pleurs. Je sais qu'ils sont bien sur Nice. C'est ça qui est rassurant. Après, je me suis dit, quand est-ce que je vais les revoir ? Parce que là, il n'y a pas de train, pas de route.
Et pour vous, Françoise, il n'était pas du tout question de partir ?
Non, moi j'ai ma vie ici, j'ai mon travail, j'ai ma maison. Voilà, j'ai les voisins, on est solidaires, on s'arrange, on s'aide. Puis bon, aller où ? Ça fait 27 ans que je suis ici, enfin, je ne me vois pas aller ailleurs.
Dans ces conditions, le quotidien, une journée qui démarre là ce matin, Françoise, ça ressemble à quoi ?
On se lève, la toilette elle est vite faite puisque la douche elle n'existe pas. Hein, on a un petit bol. Hein, on a la chance, on se le fait un peu chauffer. Et puis après, on va chercher de l'eau potable, on va chercher de l'eau non potable parce que il y a la vaisselle à faire. Alors je ne parle pas de la lessive parce que pour l'instant on a entassé toutes les affaires mouillées et puis On va voir un peu comment ça tourne. Et puis après, ben, y a aussi les sanitaires. Enfin, je veux dire, y a tout ça, quoi. C'est... Parce que bon, heureusement qu'il y a des dons et tout, hein, franchement. Parce qu'il y en a qui n'ont rien. Il y en a qui ont tout perdu. Il y en a qui n'ont plus rien, qui n'ont plus leur maison. Il y en a qui ont tout perdu. Voilà, il y en a. Voilà, celui qui est au fond du village, là, mon cousin, il a déjà perdu sa belle-mère. Cette année, il a perdu sa femme. Et là, il a perdu sa maison. Elle est coupée en deux. Ouais. Je veux dire, bon, c'est dramatique. Enfin, je veux dire. Voilà.
Françoise, il y a des moments où vous vous sentez, où vous vous êtes sentie abandonnée ?
Moi, quand je suis allée travailler samedi, donc il y avait l'électricité au travail, je n'entendais parler que de la Vésubie. Mais on s'est dit, mais nous, personne ne sait que nous, on est sinistrés, qu'on a eu des problèmes, qu'on n'a plus de réseau, plus d'eau, plus d'électricité, plus de train, plus de route, plus rien. Après, dans la journée, on a eu des hélicoptères de reconnaissance. Donc bon, on a vu l'hélicoptère, donc on s'est dit, bon, quand même, il y en a qui savent, ils font la reconnaissance et que,
oui.
Et que ça va arriver.
Oui.
Que ça va arriver. Effectivement, voilà, ça arrive. Hein.
Le village de Tende est coupé. On parle de 2 mois avant de reconnecter Tende au reste du pays. Qu'est-ce que vous vous dites entre habitants dans vos discussions sur cette période qui démarre ?
Après, on est un peu mitigé. Il y a ceux qui ont de l'espoir et ceux qui n'ont plus du tout d'espoir. Il y en a qui disent qu'on va tous être évacués et que cette vallée sera morte.
On attend une visite du président de la République. Attendent cet après-midi, hein, justement. Emmanuel Macron, ses mots, sa venue. Vous en attendez quelque chose de particulier, Françoise ?
Il faut que les politiques s'y mettent. Voilà, que l'État fasse quelque chose. Voilà, maintenant. Pas dans quelques mois, il faut le faire maintenant. Nous, la particularité qu'on a, c'est qu'il y a une route de Breil au col de Tende, c'est une seule route. On n'a aucune autre issue. Parce que là, à nos jours, on n'a pas la route et on n'a pas le train. Si on a un peu la voie ferrée, ça nous aidera aussi. Mais il faut que la route, elle soit faite aussi. Hein. Que tout le monde se mobilise pour refaire notre infrastructure au niveau du train, que ça fait déjà des années que le train, il n'y en a plus beaucoup dans la vallée, alors que bon, c'est une très belle vallée, la vallée des merveilles.
Françoise, vous l'aimez votre vallée, hein ?
Eh oui, on s'y attache. Depuis des années, on s'y attache. Et je ne suis pas la seule. C'est tous les gens qui vivent ici, parce qu'on vit à la montagne, c'est quand même particulier. Donc voilà, si on est là, c'est pas par hasard, c'est quand même par choix.
Je vous remercie, Françoise Vada.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le témoignage de Florence Vada sur Europe 1, grâce aux moyens techniques de notre envoyé spécial Jean-Jacques Herry, je vous l'ai dit, qu'il est arrivé à Tende après 25 km de marche dans la montagne, l'arrière-pays niçois. Vous restez bien sur Europe 1, le témoignage de Françoise Vada. Dans un instant, la suite du feuilleton du rachat de Suez par Veolia, l'édito politique de Nicolas Bétou. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h50 sur Europe 1. L'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La bataille de l'eau est terminée. Engie a décidé de vendre à Veolia sa participation dans Suez. Cela rend possible la naissance d'un champion français à l'international. Mais c'est aussi une date dans l'histoire du capitalisme à la française.
Oui, il y aura un avant et un après Suez. On connaît bien cette bataille qui a été rondement menée en un mois intense au cours duquel Suez, qu'Engie voulait vendre, a tout fait pour échapper à Veolia, son concurrent de toujours. Un mois au cours duquel l'État, qui est le premier actionnaire d'Engie, a tout tenté pour peser sur l'opération jusqu'à menacer de bloquer la manœuvre, mais en vain.
Oui, en fait, Engie est passé outre la volonté de son principal actionnaire, l'État.
Oui, et c'est une chose assez incroyable et à première vue, un camouflet pour l'État actionnaire et pour Bruno Le Maire. Bon, en réalité, le ministre des Finances ne doit pas être si chagrin que ça. Bon, certes, il a été mis en minorité, mais en tant que politique, il peut mettre en avant la défense de l'emploi, il a exigé une solution française et il peut se vanter d'avoir tout donné pour défendre le point de vue de Suez, celui qui était dans la position du gibier. Et défendre le faible pour un politique, bah, c'est toujours payant. En même temps, en tant qu'actionnaire au nom de l'État, il peut se frotter les mains en contemplant le joli chèque de 3,4 milliards d'euros que son entreprise, Engie, va encaisser.
Ok, mais est-ce que ce n'est pas un peu enjoliver la réalité, Nicolas ? Le fait est, l'État a été battu au conseil d'administration d'Engie, et ça, c'est une première.
Oui, c'est vrai, mais rappelons-nous ce qui s'est passé il y a quelques mois seulement, lorsque Bruno Le Maire avait, en dernière extrémité, fait capoter le projet d'alliance entre Renault et Fiat. Il avait, au nom de l'État, le même pouvoir sur Renault que celui qu'il a aujourd'hui sur Engie, et cette fois-là, il s'était fait entendre. Bon, je pense que, dans l'affaire Engie-Veolia-Suez, l'intérêt politique de l'État actionnaire a fini par s'incliner face à l'intérêt de l'entreprise. Ça fait des dizaines d'années que l'État, dans toutes les entreprises dont il est actionnaire, hésite sur son rôle, sur son vrai pouvoir de direction de la boîte. Doit-il agir en fonction des exigences de l'entreprise, intérêts particuliers, ou doit-il mettre en avant ses priorités politiques, intérêts général. Doit-il par exemple défendre la rentabilité ou bien le social, la nationalité ou bien l'ouverture au monde ?
Et l'affaire Suez est donc un tournant ?
Ben oui, et je pense que tout le monde va rapidement phosphorer sur un changement de doctrine. Et c'est très concret, hein. L'État actionnaire, c'est des centaines de milliers d'emplois en France. Déjà, l'État est à peu près impuissant face à une logique d'entreprise privée dans laquelle il n'est rien, du type Bridgestone. Il a été récemment humilié. Et voir l'État actionnaire avaler, bon gré, mal gré, un comportement de capitaliste lambda, eh bien c'est une nouvelle époque. Une nouvelle époque qui obligera évidemment à en rabattre sur le rôle idéalisé d'un État stratège, ça c'est très français, et à réviser tous les fantasmes sur un nouveau capitalisme issu de l'après-Covid.
Merci Nicolas Bétou, votre édito tous les matins, juste avant 8h sur Europe 1. 7h53, d'un mot avant de retrouver Nicolas Canteloup dans quelques secondes. On a appris cette nuit la mort de Johnny Nash. Chanteur, je ne sais pas si... Ah, je vois que Nicolas Bétou est un connaisseur. Si son nom ne vous dit pas grand-chose, vous allez certainement reconnaître sa voix. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. 7h54 et je vois que j'ai visé juste. Je ne le savais pas, mais Nicolas Bétou est un grand amateur de Johnny Nash.
Un jour ensoleillé, voilà.
Un jour ensoleillé. J'espère que c'est ce que nous promet Laurent Cabrol dans un instant. Johnny Nash venait de souffler ses 80 bougies il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi, 7h54.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h57 sur Europe 1. Et comme tous les matins, Nicolas Canteloup, coach, l'invité politique de la matinale. On a eu quelques frayeurs, mais on a retrouvé Nicolas Canteloup, il est en ligne avec nous. Ce matin, nous sommes avec Arnaud Montebourg. Bonjour Arnaud.
Des frayeurs, c'est sur votre tracteur en Saône-et-Loire. Salut le Béliard, salut Nicolas Béliard. Viens pas coacher l'invité, je te le dis tout de suite, viens pousser la gueulante Béliard. Et des ouvrières, des abeilles, pour qui ça va être le Vietnam dans les prochains jours, pour se dire, elles vont se prendre une volée de napalm dans les mirettes. Hein, on aura pas plein si vos tartines ont bien, on le goût d'un insecticide, le goût de bacon.
La liaison est trop difficile, Arnaud Montebourg, mon cher Nicolas Canteloup, j'espère qu'on vous retrouve dans de meilleures conditions à 8h45 pour la revue de presse. J'ai envie de dire j'espère. Évidemment qu'on vous retrouve dans de meilleures conditions. Ce matin, Sonia Mabrouk reçoit le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, 7h58. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et ce sera un peu plus clair qu'avec Nicolas, le pauvre. Vous dire que bien, nous sommes dans une période, disons, de transition. Nous allons vivre une journée relativement ensoleillée. Je dis bien relativement parce que rien n'est parfait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce type de temps qui est le nôtre depuis maintenant 15 jours, eh bien, va perdurer encore une bonne 10, 12, 13, 14 jours. J'ai pas la date exacte, mais enfin, nous ne changerons pas de type de temps. Avec de temps, parfois, un petit répit, comme ce sera le cas aujourd'hui, comme ce sera le cas demain. Après-demain, où les températures vont remonter, où nous aurons un petit peu plus d'éclaircies. Alors aujourd'hui, les éclaircies seront très présentes sur la France, n'ayons pas peur des mots. Elles seront un peu absentes sur la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté, mais très présentes sur Paris, sur Mâconnais, sur la vallée du Rhône, le delta du Rhône et sur le bassin méditerranéen, où Mistral et Tramontane vont souffler.
Donc on avait vu juste alors avec Johnny Nash, le soleil arrive.
Ah,
la pluie, le beau temps évidemment, mais en chanson ça passe mieux.
Je vois plus clair maintenant, hein, Johnny Nash. Effectivement, on avait tapé juste. Et le soleil revient et les températures qui vont s'échelonner entre 15
13 et 23 degrés, donc des températures en hausse, mais enfin, n'exagérons rien, ce sont les températures en hausse de 1 à 2 degrés, et ça va rebaisser à partir du congé de fin de semaine qui s'annonce pas folichon du tout.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ensemble, on écoute le monde changer. Europe 1, il est 8h.
Lors de la rentrée, il y a eu beaucoup d'angoisse et on le voyait dans nos laboratoires, plus de 50% des PCR que nous faisions étaient hors recommandation.
Le pic des tests est derrière nous, plus d'un million par semaine, ça c'était avant. Le ciblage semble avoir nettement progressé et c'est une bonne nouvelle, détaillée dans un instant. L'état de catastrophe naturelle et un président en visite dans les communes défigurées. Emmanuel Macron ira de l'une à l'autre en hélicoptère, ce moyen de transport et de secours qui a fait défaut aux habitants de Tende ce week-end. Coup de gueule du maire en perspective. Dans ce journal, ces internautes qui montent des dossiers contre les pédophiles du net et permettent leur arrestation. Mike Pence et Kamala Harris, les candidats à la vice-présidence des États-Unis, face à face ce soir avec plexiglas interposé. Et puis Donald Trump, de toute façon, est un bon président. C'est Michel Houellebecq qui le dit dans son nouveau livre publié aujourd'hui.
Le projet de loi sur les néonicotinoïdes adopté à l'Assemblée nationale, mais même la majorité est divisée. Mais aussi ce matin, les fournisseurs des bars et restaurants, producteurs, viticulteurs, brasseurs, Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, est l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a un mois, le nombre de tests augmentait chaque jour et le pourcentage d'entre eux qui étaient positifs aussi, signe que l'épidémie était en train d'accélérer en France. Aujourd'hui, ce taux de positivité est au plus haut, 9%, mais la course pour faire toujours plus de tests s'est arrêtée.
Après avoir atteint 1 200 000 tests en une semaine, nous sommes repassés à un peu plus de 900 000. Ève Roger, c'est plutôt bon signe.
Oui, c'est vrai, on teste moins, mais on teste mieux. Moins 12% de tests en Île-de-France ces deux dernières semaines par rapport à celle de la rentrée, selon l'Agence régionale de santé, qui en fait déjà 1000 de moins par jour dans les aéroports, faute de touristes. Moins 20 à 30% au niveau national, estime de son côté Lionel Baran, président du syndicat des jeunes biologistes, qui se réjouit de la fin des demandes qu'il jugeait fantasques.
Lors de la rentrée, il y a eu beaucoup d'angoisse et on le voyait dans nos laboratoires, plus de 50% des PCR que nous faisions étaient hors recommandation. C'est-à-dire, par exemple, tester toute une entreprise quand il y a un cas positif, alors même que les personnes n'ont pas été en contact ou que chacun gardait des masques. C'était, par exemple, tester toute une crèche dès lors qu'il y avait un nez qui coule ou les cas contacts dans des écoles.
Moins de tests inutiles ou de convenance, donc, des places laissées aux cas prioritaires, avec pour conséquence un cercle vertueux, moins d'engorgement dans les labos, des résultats plus rapides et plus souvent positifs car mieux ciblés.
Les explications d'Ève Roger, merci. Alors, il y a eu cette course aux tests, ce rebond épidémique de la fin de l'été, ces restrictions de nouveau appliquées à Marseille, à Paris, et voilà ces incertitudes économiques pour la reprise. Pas de croissance au quatrième trimestre, prévoit finalement l'INSEE.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Selon vos informations, avec tous ces éléments, le moral est au plus bas au sein de l'exécutif.
Et c'est un poids lourd du gouvernement qui l'avoue pour la première fois en tout petit comité. À propos du Covid, on a raté un truc en laissant croire que l'on était sorti de la difficulté. Une petite phrase qui en dit long et qui confirme ce qui se murmure au sommet de l'État lorsque les portes sont fermées. La fin du déconfinement ne signifiait pas la fin de la pandémie. On n'a pas donné le bon signal. Il ne fallait rien lâcher. Le constat en privé au sommet de l'État est sévère. Le plan de relance a été pensé comme si le virus avait disparu. Résultat, le déconfinement a été raté. Or, celui qui a été chargé de le mettre en œuvre, Jean Castex, a été nommé à Matignon. Voilà qui ne facilite pas la tâche du Premier ministre. Nous retrouverons les jours heureux, avait promis Emmanuel Macron dans son allocution du 13 avril, une référence historique au programme du Conseil national de la Résistance. Mais pour l'instant, la guerre contre le coronavirus se poursuit.
Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1.
Autre crise plus localisée mais très vive. L'épreuve vécue par ces milliers d'habitants des Alpes-Maritimes, dont la maison, la route et parfois même le cimetière ont été dévastés par les éléments ce week-end.
Ils attendent que soit déclaré l'état de catastrophe naturelle. Ce sera fait ce matin en Conseil des ministres. Puis, Emmanuel Macron se rendra successivement à Tende, Breil-sur-Roya et Saint-Martin-Visubi.
Jean-Pierre Vassallo est le maire de Tende, commune dont les routes d'accès n'existent plus et que notre reporter Jean-Jacques Herry a rejoint après 25 km de marche.
Je suis vraiment très très content qu'il commence sa visite par la Vallée Roya et par la commune de Tende. Je vais lui dire qu'il faut qu'on tire les leçons de cet événement, de s'apercevoir qu'à l'époque des moyens de communication les plus performants, nous arrivons à rester une journée, une nuit et une journée entière sans qu'on puisse avoir un contact avec l'extérieur. Parce que moi, au moment où je bagarrais, au moment le plus difficile, dans la nuit de vendredi et toute la journée de samedi, je n'avais rien. Et les gens ont appris qu'il y avait une noria d'hélicoptères dans les autres vallées. Et ça, il y a eu un sentiment de révolte incroyable.
Et ça, vous allez le dire à Emmanuel Macron aussi ?
Bien sûr que je lui dirai, monsieur le Président. On s'est senti oublié. Certains ont dit, mais on a l'impression de ne pas faire partie de la France, étant donné qu'on est une zone frontalière avec l'Italie. Certains ont eu le sentiment qu'on n'était pas considérés comme des Français à part entière.
Le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo.
8h05 sur Europe 1. Des internautes qui traquent les pédophiles sur Internet. Ce n'est pas nouveau, mais les arrestations qui en découlent se multiplient, comme à Vesoul et Dijon ces derniers jours.
Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour.
Correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est. Derrière les deux dernières interpellations, il y a un groupe très organisé, dirigé par un homme qui se dit lanceur d'alerte.
Alors son collectif s'appelle la Team Moore, M2ORE. Lui se fait appeler Steven Moore. Il nous dit qu'il a 40 ans, qu'il est commercial, qu'il est à l'origine de 25 arrestations dans le monde, dont celle de Vesoul et Dijon la semaine dernière. En 18 mois, dit-il, on a formé 1600 volontaires, 1600 internautes qui traquent les pédophiles en ligne et il insiste en toute légalité.
Nous, on crée juste des profils d'enfants sur les réseaux sociaux. On invente un scénario. On crée toute une histoire pour un enfant. Il faut savoir que nous, on utilise ou des photos de nous-mêmes adolescents ou qu'on retravaille avec des applications pour rajeunir nos visages. Nous n'allons pas chercher ces gens-là. Nous ne les provoquons pas. De la même façon que nous ne proposons pas de rendez-vous. On n'est pas des chasseurs, on ne chasse personne, on ne fait pas justice nous-mêmes, même si nous pourrions le faire, on n'est pas des chevaliers blancs, on n'est pas tout ça.
Le but, monter des dossiers clés en main, faire en sorte que le procureur, à Vesoul par exemple Emmanuel Dupic, ne puisse pas ne pas ouvrir une enquête.
Alors je crois que la justice doit s'adapter à son époque. Il n'est pas question que la justice s'interdise d'utiliser ses commencements de preuve pour mener des enquêtes.
Cela étant, la bonne attitude, ajoute le magistrat, c'est en cas de suspicion de signaler les faits sur la plateforme Pharos du ministère de l'Intérieur.
Arthur Mbaché en ligne de Strasbourg pour Europe 1.
La campagne présidentielle américaine et place à ceux qui sont sur le ticket. Les colistiers de Trump et Biden, Mike Pence et Kamala Harris.
Ils sont candidats à la vice-présidence et vont débattre ce soir à Salt Lake City, une émission qui n'aura sans doute rien à voir avec les échanges chaotiques de la semaine dernière. Xavier Yvon.
Pandémie oblige, ce soir sur la scène du débat, ils seront à bonne distance l'un de l'autre, de chaque côté d'un mur de plexiglas. Mais dans la vie, c'est un fossé qui sépare Kamala Harris et Mike Pence.
He's been Donald Trump's loyal defender.
President Donald Trump, comme le dit la bande-annonce de MSNBC, lui est le défenseur le plus loyal de Donald Trump. Elle, sa plus féroce critique.
She's been the president's fierce critic.
Donald Trump. Ancienne procureure, Kamala Harris excelle dans les joutes oratoires avec son rire puissant. Mike Pence, lui, c'est le vice-président lisse et sans charisme qui ne veut surtout pas faire d'ombre au maître des projecteurs, Donald Trump. Cheveux blancs et costume sombre, il est le visage de la droite évangélique au pouvoir. Chrétien très fervent, anti-avortement, anti-mariage gay, ultra-conservateur, il refuse même de se retrouver seul dans une pièce avec une femme sans la sienne à ses côtés. Et Mme Pence sera bien là pour le voir débattre avec Kamala Harris, jeune sénatrice de Californie, première femme de couleur à figurer sur un ticket présidentiel. Une mère originaire d'Inde, un père jamaïcain, sa réussite et l'illustration parfaite du rêve américain. Vite distancée dans les primaires démocrates, elle a été choisie comme colistière pour donner une image plus dynamique de la candidature Biden, dont elle serait l'héritière naturelle à la Maison-Blanche s'il était élu. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Elle a été enlevée il y a près de 4 ans par des djihadistes. La Française Sophie Pétronin, qui était au Mali, sa famille a repris espoir ces dernières heures et laisse entendre qu'une libération est en cours.
Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, un nouveau livre et un nouveau single.
Michel Houellebecq et AC/DC, les deux vont faire du bruit.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Après intervention et intervention 2, voici intervention 2020 de Michel Houellebecq, nouvelle compilation de textes qui paraît aujourd'hui chez Flammarion. L'auteur promet que ce sera la dernière, hors cas d'urgence morale grave, dit-il.
Ce livre, comme toujours hein, avec Michel Houellebecq, va faire réagir. Nicolas Carreau l'a lu pour Europe 1.
Jacques Prévert est un con. Le nouveau livre de Michel Houellebecq s'ouvre sur ces mots. On rigole, on reconnaît bien la provocation houellebecquienne, mais s'ensuit une analyse très fine, très pointue du réalisme poétique. Chapitre suivant, un éloge du film Mirage de Jean-Claude Guiguet. La plus plupart des textes ont déjà été publiés dans des revues ou sont des retranscriptions d'entretiens audiovisuels. Il y évoque son œuvre, sa vision du monde. On peut lire notamment d'anciennes chroniques, comme celle qu'il consacrait à la fête dans le magazine 20 ans en 1996. Le but de la fête, écrit-il, avec la joyeuseté qui caractérise Houellebecq, est de nous faire oublier que nous sommes solitaires, misérables et promis à la mort. Fin de citation, amusez-vous bien. Il est question aussi de l'âge de la retraite, des Allemands, de Neil Young ou du féminisme. Les considérations de l'écrivain sont rarement des plus optimistes, certes, mais elles sont souvent lucides et même les plus anciennes restent incroyablement modernes. Michel Houellebecq qui publie parallèlement la version poche de Sérotonine, son dernier roman.
Nicolas Carreau, je vous préviens, vous allez avoir le pied qui tape ou la tête qui balance en rythme avec cet extrait du nouveau single d'AC/DC dévoilé il y a 2 heures.
Ça s'appelle Shot in the Dark. L'album complet Power Up sortira au mois de novembre, un titre qui signe le retour du chanteur Brian Johnson qui souffrait de problèmes d'audition.
Et puis 2 infos chiffrées pour finir. D'abord en football, la 100e sélection d'Olivier Giroud ce soir pour l'amicale France-Ukraine devant 1000 spectateurs au Stade de France. Et puis si vous aimez les devinettes, quel bébé pèse 57 kilos à la naissance pour 1m75 ? Réponse, un girafon.
Ouais, j'allais pas essayer.
De l'espèce girafe de Rothschild, le zoo d'Amnéville en Moselle va maintenant lui donner un prénom par un vote sur Internet.
Je l'avais la réponse.
Vous aviez la réponse. Vous avez un prénom peut-être à suggérer, Sonia, François, pour comment on appelle un bébé girafon ?
C'est déjà tellement mignon, girafon.
On va l'appeler girafon, ça sera très bien. Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1 et Sonia Mabrouk nous a rejoint. Bonjour ma chère Sonia.
Bonjour cher Mathieu, bonjour à tous. C'est un sujet enflammé qui suscite l'inquiétude. Le retour provisoire des néonicotinoïdes. Notre invité fait face à la colère noire des Verts et aux doutes sérieux d'une partie de sa majorité. Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, est notre invité.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Bienvenue à vous et bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Vote solennel hier sur le projet de loi autour de la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes, et je le précise pour la culture de la betterave sucrière. Vous vous attendiez à une telle contestation dans votre majorité ?
C'est un vote qui est difficile. Un vote qui est difficile pourquoi ? Parce que la question qui est face à nous, c'est une question de souveraineté. Il ne s'agit pas du tout d'opposer écologie et économie. C'est vraiment une question de souveraineté. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut sauver une filière française du sucre ou est-ce qu'on veut importer du sucre étranger ? C'était ça la question qui était posée. Et c'est compliqué parce que l'écologie, elle est confrontée au réel. Et cette confrontation au réel, elle peut amener des doutes parfois. Et donc il fallait ce courage. Mais hier, il a été adopté à une très large majorité.
Oui, mais quand même, il y a une contestation qui est record et même inédite. Une trentaine de vos députés qui ont voté contre, une trentaine qui se sont abstenus. Apparemment, vous n'êtes pas arrivé à les convaincre.
Ah, vous savez, hier, il y a eu d'abord des débats très respectueux, profondément respectueux. Je crois que chacun a compris les difficultés et chacun, dans sa conviction la plus forte, a pris part au vote. Moi, ce que je retiens véritablement, c'est que face à cette question de souveraineté, on a pris une décision qui est forte, compliquée mais forte. Parce que vraiment, toutes celles et ceux qui nous entendent doivent bien comprendre qu'aujourd'hui, on a 46 000 emplois, une filière qui peut disparaître du
on
jour au lendemain.
Monsieur le ministre.
Et qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Est-ce qu'on reste les bras croisés ? Est-ce qu'on reste dans l'incantation ? Ou est-ce qu'on agit pour laisser le temps à cette filière de faire cette transition, mais de faire une transition avec la filière ? Vous savez, moi, l'écologie qui consiste à tuer une filière française pour importer du sucre étranger, c'est pas la conception que j'ai de cette écologie.
On va aller sur ce sujet. On va aller sur le fond, mais quand même, c'est un rappel à l'ordre parce qu'un vote contre, c'est une démarche et un signal politique. Est-ce que vous dites ce matin à certains de vos députés dans la majorité, non, la France reste une locomotive sur les sujets environnementaux parce que c'est une véritable crainte un questionnement.
Complètement. La France aujourd'hui, ce gouvernement, nous agissons tous les jours pour l'environnement. Mais agir pour l'environnement, il faut sortir à un moment donné de l'écologie de l'incantation. Tombons dans l'écologie du réel. Vous savez, c'est trop facile d'aller déclamer sur des plateaux de télé, sur les stations de radio. Il faut faire. On est confronté au réel, bon sang. Quand vous êtes sur un champ de betteraves, et que vos betteraves, elles ne poussent plus, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, c'est pas grave, on arrête tout, il faut, mais vous n'avez pas l'alternative. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'alternative. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout, on met 46 000 personnes au chômage ? on importe du sucre étranger, ou est-ce qu'on se retrousse les manches, on se dit il nous faut 2-3 ans pour accompagner une filière,
et pourtant,
on l'accompagne,
oui.
Et à ce moment-là, la transition agroécologique, on la fera en France.
Une ancienne ministre de l'écologie, Delphine Batho, va plus loin, évoquant l'empoisonnement des terres de France. Clairement, elle vous qualifie d'empoisonneur aujourd'hui.
Oui, mais vous savez, on a beaucoup débattu avec un certain nombre de députés comme Delphine Batho. Elle est dans l'incantation, elle est dans le yaka faucon, elle est dans... Mais trouvez la solution. Quand vous avez tous les agronomes, quand vous avez la recherche, quand vous avez une absence d'alternative, il ne suffit pas de déclamer, même si c'est Delphine Batho. La déclaration d'une députée ou la déclaration d'ancien ministre, ça ne fait pas pousser les betteraves. Pour faire pousser les betteraves, il faut trouver des solutions. Pour sauver nos emplois, il faut trouver des solutions. Et donc la transition écologique, on la fera en France. Moi, je veux qu'elle se fasse en France. Je ne veux pas qu'elle se fasse en apportant du sucre étranger.
Est-ce qu'il y a eu des pressions à ce micro? L'eurodéputé vert Yannick Jadot a dénoncé la pression des lobbies des pesticides sur le Parlement, peut-être sur vous, sur le ministère, et la pression du syndicat, la FNSEA. Il a tort?
Mais c'est même pas qu'il a tort, c'est que c'est juste un scandale.
Mais pourquoi vous prenez
Parce que c'est à chaque fois, c'est le grand mot qu'on sort. C'est quoi c'est sauver une filière, sauver 46 000 emplois, c'est succomber à des lobbies? Vouloir faire une transition agro...
Je ne sais pas, dites-le-moi, est-ce qu'il y a eu des pressions de lobbies?
Aucune. Vouloir faire une transition agroécologique en France...
Aucune pression?
Aucune, pas une. Vouloir faire une transition agroécologique en France plutôt que d'importer du sucre étranger, c'est faire face à des lobbies? Avoir une vision pour notre souveraineté agroalimentaire, c'est faire face aux lobbies? Mais bon sang, c'est juste vouloir une France forte avec une agriculture forte. Vous savez, il n'y a aucun pays au monde, pas un. Il n'y a aucune civilisation au monde, pas une, qui n'a été forte sans avoir une agriculture forte. Moi, je suis pour cette souveraineté.
Nous sommes d'accord, mais pourquoi, Julien de Normandie,
pour la filière française?
Pourquoi il n'aurait pas été possible d'indemniser à 100% les betteraviers et de ne pas autoriser cette dérogation qui suscite tant de débats et d'inquiétudes?
J'ai entendu, monsieur le député Jadot, à votre micro, où il dit mais il suffirait d'indemniser à 100%. Monsieur le député Jadot a été député européen, il l'est encore, depuis 11 ans. Mm-hmm. Il connaît parfaitement les règles européennes. Il sait parfaitement que ces règles, aujourd'hui, ne nous permettent pas d'indemniser à 100%. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez dire aux betteraviers, continuez à planter, et puis si ça se passe mal, c'est vous-même qui vous indemniserez à hauteur de 30-40%. Bref, que vous allez perdre de l'argent. Mais dans ce cas-là, vous ne plantez pas. Donc, monsieur Jadot, il est de l'incantation à l'incompétence. Ça fait 11 ans qu'il est député européen et il ne connaît même pas ses règles de base. Donc non, malheureusement, au moment où je vous parle, il n'y a pas d'alternative. Et face à ça, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez de l'incantation, vous mettez les pieds dans le réel, les pieds sur le territoire, les pieds sur le terrain.
Et le réel,
et vous
pour plus tard, c'est quoi,
pour trouver
Julien
des solutions.
Normandie, est-ce qu'il faut faire maintenant confiance à la science, aux agriculteurs, pour trouver des alternatives rapidement?
Il faut mettre une grosse pression dans le tube. Et donc, hier, on a fait deux choses. On a voté ce projet de loi qui permet d'avoir 3 ans devant nous pour trouver la solution. Et la solution, on met une grosse pression.
3 ans,
avec 7 millions
il peut y avoir
d'euros.
Plus pour l'instant. 3 non, ans, vous ne le savez pas.
Si, oui. la loi stipule que ça ne
et
peut pas
Et au bout
être,
de 3 ans, si vous ne trouvez pas
La loi stipule qu'on n'a que 3 ans pour trouver
et
la
si
solution.
Et si au bout de 3 ans, vous ne trouvez
on
pas
On va trouver la solution
attendez,
dans les
non,
3
là,
ans.
Là, c'est de l'incantation.
Non, parce qu'on a mis, on se donne les moyens. Non, pas, on se donne les moyens. On a mis 7 millions d'euros, c'est ce que j'ai annoncé. 7 millions d'euros pour accélérer la recherche. Dans les 2 prochaines années, c'est 10 fois plus... dans les 2 prochaines années, que toute la recherche qui a été faite depuis 5 ans sur le sujet.
Monsieur le ministre, je veux bien croire que, évidemment, les moyens poussent à trouver les solutions, mais si au bout de 3 ans, je vous répète la question, vous ne trouvez
mais
pas, qu'est-ce qui arrive?
Vous me réinviterez, je ne sais pas où je serai
donc
dans 3
ne savez
ans.
Pas.
Mais vous savez, moi, mon rôle, c'est d'être au jour présent. Qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui?
Mais vous dites que c'est provisoire,
non,
on a envie de savoir ce qui se passe dans 3 ans.
Parce qu'on met 7 millions d'euros pour trouver la solution. Et je peux vous dire qu'on va le faire avec force, avec détermination. On a en France le plus grand institut de recherche agronomique au monde, qui s'appelle l'INRAE. On a aujourd'hui des chercheurs d'exception. Il faut qu'ils aient les moyens, je leur ai donné les moyens. On va créer un suivi très précis, associant d'ailleurs les parlementaires, pour qu'on puisse trouver la solution. Mais vous voyez, en résumé, qu'est-ce qu'on a comme solution? Est-ce que l'écologie, ça consiste à se dire, quand on n'a pas une solution, on ferme, on éteint la lumière, on met en l'air une filière? Ou est-ce que l'écologie du réel, c'est de se dire, on a l'humilité de reconnaître quand il n'y a pas la solution, on passe le guet, on met des financements pour trouver grâce à la recherche des solutions le plus vite possible, mais à la fin, la transition, on l'a fait en France.
Alors,
et on n'importe
pour
pas,
une écologie
et
du
on
réel.
N'importe pas du oui. sucre étranger, moins disant environnementalement.
Une écologie pour la France, mais elle se joue également, évidemment, sur le plan européen. Une réforme de la PAC, la politique agricole commune, est discutée en ce moment. Est-ce qu'une PAC plus verte et plus exigeante, ça veut dire plus de normes et de contraintes pour nos agriculteurs?
Non, ça veut dire surtout une chose, très importante à mes yeux, c'est que ces normes environnementales, il faut qu'elles soient les mêmes partout en Europe. Et c'est ça le vrai
et
sujet.
Comment allez-vous faire?
Ben, on rend.
Puisque vous n'êtes pas dans l'incantation.
On rend aujourd'hui, toutes les trois semaines, je suis à Bruxelles avec mes homologues. On est en train de discuter de cette nouvelle PAC. Et dans cette nouvelle politique agricole commune, on a fixé les règles environnementales. Et aujourd'hui, moi, ce que je demande, ce sur quoi je me bats auprès de la Commission européenne, des autres ministres européens, c'est que ces règles environnementales, elles s'appliquent partout
non, mais
en
attendez,
Europe.
Soyons concrets, comment vous faites pour avoir les mêmes normes environnementales entre la France et par exemple des pays de l'Est qui
mais,
n'en ont pas?
Ben, c'est tout l'enjeu.
Mais vous comment savez, vous faites? Vous les contraignez?
C'est très concret. Quand vous négociez les règles de cette politique agricole commune, vous dites, est-ce que ces règles, elles s'appliquent partout pareil? Moi, ce que je demande, ce pourquoi je me bats, ce pourquoi on fait une coalition avec beaucoup de pays européens, c'est d'obtenir que ces règles, elles s'appliquent partout en Europe. Mais c'est la moindre des choses. L'Europe, c'est un marché commun. Et c'est inacceptable que dans nos étals de supermarché, vous ayez de temps en temps un concombre européen qui n'a pas les mêmes normes écologique qu'un concombre français. C'est inacceptable. Et donc, il faut faire cette convergence et on a une solution, un événement historique qui est cette nouvelle politique agricole commune pour l'obtenir.
Et qu'on va suivre en détail, évidemment, sur Europe 1. Monsieur le ministre, le président se rend aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, 5 jours après les intempéries meurtrières. On pense évidemment aux sinistrés. Il va y avoir l'état de catastrophe naturelle qui est déclaré. Et qu'en est-il des agriculteurs et des éleveurs des Alpes-Maritimes qui sont privés d'accès pour leur culture et leurs bêtes?
Ben d'abord, c'est beaucoup d'émotion parce que je pense à toutes ces familles de sinistrés et les éleveurs, il y a plus d'une centaine d'élevages qui ont été impactés. Donc c'est un énorme sujet. Je voudrais saluer le travail fait localement, notamment par la Chambre d'agriculture, les services de l'État, les collectivités. Aujourd'hui, on a d'abord une urgence, c'est d'accompagner les éleveurs pour des choses toutes simples mais essentielles, nourrir les bêtes, aller les récupérer quand elles sont dans les hauteurs, pouvoir les faire redescendre. Et puis le deuxième point, c'est que évidemment, on va mettre en place dans quelques minutes au sein du Conseil des ministres le régime de catastrophe naturelle. Nous, on mettra en place tous les outils du ministère également pour
non,
pouvoir
attendez,
accompagner oui, financièrement les éleveurs.
Il y a le régime
éleveurs.
De catastrophe naturelle et il y a, et ça c'est de votre prérogative, le régime des calamités agricoles. Ça dépend de vous, donc
et
vous
le
posez.
On le fera. On le
vous
fera
allez le faire
très clairement.
Ah,
très clairement.
Vous dites ce matin qu'il sera enclenché. C'est important hein,
c'est
pour
important,
ceux qui nous écoutent.
Mais il y a une différence entre les catastrophes naturelles et les calamités agricoles. Ces catastrophes naturelles, ça arrive tout de suite. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, le président de la République, il va montrer à la fois la solidarité et le soutien de toute la nation, de l'État, des collectivités, des citoyens. Quelle belle solidarité localement. Mais notre objectif, c'est d'aller le plus vite possible.
J'ai
la catastrophe
compris.
Naturelle,
ouais.
Ça permet d'enclencher les
et
choses
ça sera
immédiatement.
Déclenché. Mais le régime des calamités agricoles, ça sera déclenché quand?
Évidemment qu'on le fera.
Quand?
Il faut que toutes les,
ça
tous
dépend
les experts,
de vous, monsieur le ministre.
Non, oui, ça dépend de moi, donc on le fera très vite, mais il faut d'abord que tous les experts identifient et qualifient l'événement. Donc ça prend plusieurs jours, là où la catastrophe naturelle, on le peut faire dès
c'est
ce matin.
C'est une question de jours, donc.
C'est une question très rapide, le plus vite possible. Mais on va mettre en place tous les moyens pour accompagner nos concitoyens sinistrés.
Une question
donc, oui,
aussi,
on le fera bien évidemment.
Oui, pour conclure sur la crise sanitaire, on parle beaucoup à raison des bars, des restaurants, mais on oublie souvent les fournisseurs. Et je pense à la filière viticole, aux brasseurs par exemple. Qu'êtes-vous en mesure d'annoncer ce matin comme nouvelle aide pour ces secteurs en très grande difficulté?
Ben, on est aujourd'hui dans un dispositif qu'on a déjà conçu. L'avantage, c'est que comme on est face à cette situation depuis des semaines et des semaines, on a les outils aujourd'hui. Par exemple, dans le système viticole, Viniviticole, c'est 250 millions d'euros qu'on
oui,
a mis en place.
Ils vous demandent plus,
faut,
hein,
oui, mais
parce que les bars vont rester fermés. Là.
Exactement, mais ces outils financiers, on les calibre au fur et à mesure. Évidemment que s'il faut aller plus loin, on ira plus loin.
Là encore, c'est une question de jour.
Ben, cet accompagnement, ça fait 8 mois qu'on le fait. Et je crois qu'on a montré notre réactivité. Et donc, on s'adapte à la situation. Et au fur et à mesure, on adaptera évidemment nos soutiens à la situation dans des secteurs qui sont très impacté par exemple,
la fermeture
des bars.
En plus, sont à venir pour cette filière viticole.
Ça fait 8 mois qu'on accompagne et je crois que le gouvernement a montré qu'il a été à chaque fois au rendez-vous pour accompagner l'ensemble des professions impactées par la situation qu'on vit.
Merci Julien de Normandie
Merci
d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre la météo, l'info et le journal de Roland Garros. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zellani.
Le mois de septembre, le plus chaud jamais enregistré dans le monde, c'était cette année. Annonce ce matin du service européen Copernicus sur le changement climatique. 2020 pourrait d'ailleurs détrôner 2016 comme année la plus chaude. Emmanuel Macron au chevet des sinistrés de la tempête Alex. Le président arrive en hélicoptère cet après-midi à Tende, puis à Breil-sur-Roya et à Saint-Martin-Vésubie pour soutenir les habitants traumatisés. Ce matin, le Conseil des ministres va déclarer les l'état de catastrophe naturelle. Nicolas Sarkozy à nouveau entendu aujourd'hui dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2017. L'ex-président risque une mise en examen supplémentaire. La mort d'Eddie Van Halen, l'un des guitaristes les plus influents des 50 dernières années et fondateur du groupe qui porte son nom, on se souviendra du titre Jump, mais aussi du solo de guitare sur Beat It de Michael Jackson. Et puis il y a du foot ce soir, les Bleus affrontent l'Ukraine. Match amical au Stade de France, une équipe d'Ukraine privée de 8 joueurs pour cause de Covid. Côté français, Léo Dubois, testé positif et remplacé par Ferland Mendy.
Merci Hélène Zélani, 8h31.
Passionné de tennis, c'est l'heure du journal de Roland-Garros avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le journal de Roland-Garros et les premiers quarts de finale ont réservé leur lot de surprises hier, avec d'abord un match marathon dantesque.
Oui, c'est l'Argentin Diego Schwartzmann qui est sorti vainqueur d'un bras de fer en 5-7 d'un peu plus de 5 heures avec le numéro 3 mondial, l'Autrichien Dominic Thiem, le finaliste de ces deux dernières années qui avait laissé des plumes déjà face à Hugo Gaston. Thiem, récent vainqueur de l'US Open, a craqué dans le combat physique imposé par Diego Schwartzmann. De quoi rendre fier l'Argentin.
Ce match est très très important pour moi. Pas seulement pour avoir joué un bon match, mais gagner en 5 heures sur le Philippe Châtrier pour la première fois. J'ai joué plusieurs fois 5-7 ici et je n'avais jamais gagné. Je pense que finalement ce soir, je méritais de gagner.
L'Argentin, 14e mondial, tout souriant, qui s'offre ainsi sa première demi-finale en Grand Chelem.
Et ce sera face à Rafael Nadal après le match le plus tardif du tournoi.
Oui, le tenant du titre est entré sur le court hier à 22h30 pour affronter le jeune Italien de 19 ans, Yannick Sinner. Et il en est sorti victorieux vers 1h30 du matin dans un froid saisissant. Pas vraiment satisfait de la programmation des matchs et du retard pris dans le lancement. Rafael Nadal qui s'est exprimé vers 2h du matin sous les yeux d'Axel May.
Je sais que les joueurs de foot jouent dans de telles conditions, mais ce n'est pas pareil car ils courent en permanence. Nous courons, nous nous arrêtons, on fait une pause entre chaque point. C'est un sport où il y a de nombreuses interruptions. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont décidé de mettre 5 matchs sur le Châtrier dans la même journée. Je pense que c'est un risque qu'ils ont pris.
Nadal qui disputait hier son 100e match à Roland-Garros, 92 victoires pour 2 défaites. Et voilà.
La jeunesse au pouvoir dans la première demi-finale, femme inédite.
Oui Mathieu, à 19 ans, la Polonaise Iga Świątek, la Benjamine du tableau féminin, se hisse pour la première fois dans le dernier carré d'un grand chelem, sans perdre un set en route. Et que dire de son adversaire demain, l'Argentine Nadia Podorovska, 23 ans, 131e mondiale. Première joueuse issue des qualifications à atteindre les demi-finales dans l'histoire du tournoi.
Et au programme du jour, des retrouvailles pour oublier un faux pas.
Oui, Novak Djokovic visera aujourd'hui une 10e demi-finale à Roland-Garros contre l'Espagnol Carreño Busta. C'est face à lui que le numéro 1 mondial avait perdu ses nerfs à New York, puis avait été disqualifié de l'US Open après avoir touché involontairement une juge de ligne. Dans le tableau féminin, deux lauréates de Grand Chelem, la Tchèque Kvitova et l'Américaine Kenin, tenteront de s'offrir pour la première fois une place dans le dernier carré parisien.
Merci Corinne Boulou.
C'était le journal de Roland-Garros avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
8h34, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et ce sera un peu plus clair qu'hier, ce sera un peu plus agréable qu'hier avec l'arrivée de quelques éclaircies qui en souhaitent la bienvenue d'ailleurs. Soyez, mesdames les éclaircies, veuillez vous installer, on attend que vous. Et elles seront là toute la journée et sur une grande partie de la France, alors que des ondées persisteront ici ou là sur la Bretagne, la Basse-Normandie, les Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Sud-Ouest. Mais enfin là, il n'y en aura que quelques-unes, un peu plus nombreuses ces ondées sur la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Alors les températures remontent, cela mérite une petite explication, c'est simple. C'est une hausse de température qui va durer 3 jours, mais ensuite, elles vont baisser de manière très importante en fin de semaine, de sorte que nous allons avoir froid samedi et dimanche. Mais aujourd'hui et demain et après-demain, les températures resteront autour de 17 à 20 degrés sur la plupart des villes de France, ce qui constitue quand même des températures agréables pour la saison.
Voilà. Merci beaucoup Laurent Cabrol. Dans un instant, on prend soin les uns des autres dans Europe Matin. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed et retour ce matin sur les affirmations du professeur Raoult sur l'évolution du virus. Notre planète, Fanny Agostini et bien sûr, à 8h45, Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Ce matin, nous allons revenir sur les propos du professeur Raoult pour un peu de fact-checking. Il a dit hier que le virus avait muté et qu'il serait, cette fois-ci, plus agressif.
Les éléments qu'on a nous laissent penser qu'il n'est pas aussi banal et bénin que ce que nous avons eu là en juillet-août.
Bon, écoutez, après les 4 saisons de Vivaldi, on a les 4 mutations du professeur Didier Raoult. Alors c'est problématique puisqu'il avait dit lors de la commission de Sénat le 15 septembre dernier que le virus était plus gentil et là il serait plus méchant. Alors ça pose problème et ça porte à confusion pour les Français, je comprends qu'on ne comprenne plus rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le virus de coronavirus, c'est une famille de virus qui va muter et donc on le sait, ils vont commettre des petites erreurs. Et si on devait considérer comme un mutant tout virus qui mute une seule fois, eh bien on aurait quasiment 100 000 coronavirus différents. La seule question c'est, est-ce que ces mutations entraînent un virus plus méchant, plus agressif, plus contagieux? Eh bien pour l'instant la réponse est non. J'ai interrogé des réanimateurs, les malades qui sont en réanimation depuis 10, 15 jours, 1 mois sont exactement les mêmes que ceux qui étaient au mois de mars. Le virus n'est pas plus gentil, il n'est pas plus méchant. Nous devons tous nous protéger et attention à ces confusions.
Et il a aussi dit que la transmission du Covid était essentiellement manuportée et qu'il y aurait donc un risque avec les objets.
Ça, c'est manuporté. Hein. D'ailleurs, essentiellement, c'est manuporté. Il y en a, les gens qui regardent ça, il y en a en réalité dans tout, sur tous les meubles, sur toutes les chaises, sur tout. Et donc, il y en a partout du virus.
Trois contre-vérités en une, c'est une sacrée performance. Encore une fois, on est vraiment dans la désinformation, surtout que le grand public ne comprend plus ce qu'on raconte. Alors, première chose, du virus, il y en a partout. C'est faux. Une étude dans un hôpital s'est intéressée justement au coronavirus qui circule dans un milieu où il y a beaucoup de malades. Eh bien, toutes les particules qui ont été détectées ne sont pas contagieuses. Ça veut dire que ce mode de contamination au travers des objets reste marginal. Il est possible, dans d'autres virus, comme celui de la gastroentérite, qu'ils survivent sur une poignée de porte, raison pour laquelle il faut continuer de faire attention. Même chose pour la bronchiolite. On peut l'attraper sur les doudous des enfants. En ce qui concerne le Covid, c'est la contamination au travers de gouttelettes. Lorsque vous parlez, lorsque vous respirez, lorsque vous chantez, vous allez mettre des particules qui vont donc contaminer, raison pour laquelle il faut être loin des uns des autres. Et puis, dernière contre-vérité, il a dit qu'il n'y avait pas de contamination aérienne, pas de contamination liée aux aérosols. Eh bien, c'est faux. Très rapidement, une étude coréenne dans un centre d'appel, 11e étage, 94 malades sur 216 qui sont présents. Une chorale, 61 personnes présentes, un seul malade, 53 cas secondaires à partir d'un malade. Et puis, dans un restaurant, 3 familles qui sont tombées malades liées à une mauvaise ventilation. Donc oui, il y a aussi une contamination aérienne. Je tâcherai toujours de vous informer du mieux que je peux, toujours en accord avec les données de la science et jamais dans l'obscurantisme médical.
Merci Jimmy Mohamed et c'est pour ça qu'on tient à ce rendez-vous Notre Santé tous les matins sur Europe 1. Nous retrouvons Fanny Agostini à présent, Notre Planète. Bonjour ma chère Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce matin Fanny, vous nous dites qu'en passant par la pédagogie, une entreprise de livraison de repas fait évoluer les pratiques alimentaires de ses clients.
Oui, je voulais prendre pour exemple ce matin la start-up de livraison de plats préparés Food Cherry qui livre des plats cuisinés aux quatre coins de la France et qui a fait dernièrement parler d'elle car depuis le mois dernier, l'entreprise explique à sa clientèle pourquoi elle a décidé de bannir l'avocat et le cabillaud de ses menus, deux produits qui sont pourtant les plus commandés. C'est pas banal de le dire, c'est pas banal comme décision. On pourrait se dire que Food Cherry aurait pu déplaire à ses clients au risque d'en perdre. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est produit. D'autres sont venus grossir les rangs des aficionados d'une alimentation engagée, des clients qui prennent de moins en moins de plaisir lorsqu'ils sont avertis des conséquences de leurs choix alimentaires, à manger par exemple une espèce menacée telle que le cabillaud ou encore de l'avocat qui aurait fait 10 000 bornes pour arriver dans leur lunchbox. On se rend compte qu'informés, les gens sont davantage capables de changer leurs habitudes.
Le secteur de la restauration plus généralement, est-ce qu'il serait plus enclin à faire changer nos habitudes de consommation?
C'est vrai qu'on entend souvent que les entreprises vendent ce qu'attendent les consommateurs et si, justement, les responsabilités s'inversaient. Les consommateurs attendent aussi que les entreprises évoluent dans leur offre pour nous permettre de consommer autrement. Les produits exotiques, par exemple, sont de moins en moins prisés au profit du frais et de la proximité. C'est même de nos jours un atout qui s'affiche avec fierté dans de plus en plus d'établissements où l'on vous raconte d'où vient ce que vous mangez avant même que vous ayez osé poser la question. Ça arrive.
Au-delà de l'expérience gustative, la qualité nutritionnelle des produits est mise en avant.
C'est le triptyque, je dirais même, plaisir, santé, environnement qui apparaît aujourd'hui comme une tendance sociétale de fond et qui s'est renforcée d'ailleurs avec la crise que nous venons de subir. Manger à contre-saison ne fait plus vraiment envie parce que cela sous-entend aussi de longues distances parcourues par les produits et ça, on s'en est bien rendu compte, c'est désavantageux sur le plan environnemental mais aussi sur le plan nutritionnel. Alors, notre rapport à l'alimentation serait-il en train de changer, renversant toutes les courbes, celles de l'obésité, des émissions de gaz à effet de serre, de la destruction de nos sols et de la biodiversité? Alors ça, on n'en est pas encore encore là, même encore très très loin, mais on peut prêter attention tout de même, Mathieu, à ces signaux qui ne sont pas si faibles que cela et qui nous indiquent peut-être, probablement, de grands changements à venir.
Merci.
C'est souhaitable, en tout cas.
Merci Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins sur Europe 1, 8h42. À suivre la revue de presse que Nicolas Canteloup et Julie s'installent. À tout de suite.
Le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on vous retrouve, Mathieu Béliard, pour le principal titre de l'actu. Il y a même plusieurs titres. Tiens, allons-y.
Et oui, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, Europe 1, regarde le monde changer. Vous le savez, c'est notre slogan, mais désormais, regarde le monde masqué. Car oui, oui, autant vous le dire, chers auditeurs, si vous regardez sur Internet, nous portons tous un masque au micro. Et ce matin, j'ai opté pour le masque noir en cuir. Voilà, on est entre Zorro et Donjon SM. Voilà. Et puis on a retrouvé Nicolas en live. Nicolas qui nous a appelé tout à l'heure avec le téléphone de Jean Castex.
Et on a entendu.
On avait une liaison made in 1974. Voilà, bref, bon, tout est revenu dans l'ordre. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui se rend aujourd'hui auprès des sinistrés des Alpes-Maritimes. Mm-hmm. Pourvu que ce soit le Emmanuel Macron gentil aujourd'hui et pas le Macron bougez-vous le cul. Sinon, il est capable de conseiller aux habitants de trouver un nouveau travail en nageant jusqu'au bout de la rue, de l'autre côté de la rive. L'autre info, ce sont les mesures, chers auditeurs, les mesures sanitaires qui s'appliquent jusqu'à l'Assemblée nationale, où la jauge de l'hémicycle a été réduite à 50%. 50% de députés présents, c'est peu. Mais ça fait toujours 90% de plus que d'habitude. Et puis, cette belle histoire, nous l'avons dit dans l'édition de 7h, c'est cette dame qui a joué un jeu à gratter, et un jeu à gratter gagnant de 50 000 euros et qu'il a donné à 4 SDF. Finalement, elle aurait bien fait de leur filer juste 2 euros. Bref, je peux vous dire que les 4 SDF, on a eu un reportage, les 4 SDF ont flambé toute la nuit. Paquet de curly, Monster Munch, goût bacon et canette sur canette de 8-6 tiède. Ah, ils ont saccagé leur carton. Oui, ils restent bretons quand même.
Oh non, allez.
Il ne devrait rien leur rester ce matin, mais ils auront bien profité.
Oui, c'est ça. Merci, on a entendu ça effectivement sur notre antenne. Merci beaucoup Mathieu. Sonia Mabrouk en a parlé avec Julien de Normandie. Les députés ont voté la réintroduction temporaire de pesticides néonicotinoïdes pour aider la filière de la betterave. Ces pesticides permettent de lutter contre un puceron qui fait des ravages dans les cultures. Problème, ils sont notoirement connus pour tuer les abeilles. Ces pucerons.
Oh les salauds, la start-up machine, là, tu parles.
Arnaud Montebourg, bonjour. Bah oui, vous êtes producteur de miel, vous, hein?
Oui. Salut la Julie, c'est le Béliard, le Cabrol, le Jimmy, le Bétou. Non mais vous avez vu ça, les gars? Macron qui se gargarise, H24, de favoriser les entreprises et qui te flingue la filière miel à la première occasion. Non, mais alors qu'on a besoin de miel dans notre pays. Hein. Avec quoi on fait les grogs contre le coronavirus? Le grog, ça va de miel. Hein. Avec quoi on fait des pastilles contre la toux? Avec du miel, ça guérit le miel. Comment vous allez vous soigner cet hiver? Avec des betteraves peut-être, hein? T'as le nez qui coule, t'avales deux betteraves avec un verre d'eau. Mais non. Tu prends ta température avec une betterave. Mais non.
Et ça marche votre production de miel au fait? Hein?
Mais pas qu'un peu. Je suis le number one, wow. Julie. Je suis la star du miel. Je suis le miel Gibson des abeilles.
Et c'est sur vous que ça tombe, tout.
Et
ça,
pas mal,
ces mesures.
Celle-là. Relève-la au moins, celle-ci.
C'est pas mal. Ah, c'est ça, sur vous que ça tombe, hein, ces restrictions, ces mesures.
Mais écoute, c'est pas grave. J'ai l'habitude, j'ai des ressources, tu vois, Julie, je suis un gars solide. Vous voulez tuer mes abeilles, les députés, mais qu'à cela ne tienne, je lance le miel de betterave. Voilà, mon invention, mais regarde, tiens, voilà, tu vois, je t'ai amené un pot de miel de betterave. Le miel de betterave ravira vos gamins à la sortie de l'école pour le goûter, grâce à son pesticide qui lui donne un petit goût de bégon amer.
Non, mais c'est bon ça, votre truc, là? Hein?
Oh, t'es sérieuse? C'est dégueulasse, c'est immangeable. Mais bon, puisqu'on veut plus de mon miel, mais je m'adapte.
Bon courage, Arnaud Montebourg. Allez, on va parler d'une première technologique mise en place à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. On peut expérimenter la reconnaissance faciale. Elle permet de fluidifier le parcours du voyageur. On va en parler avec Gérard Collomb. Bonjour. Alors, vous êtes très technologie, vous, je crois, hein?
Oui, bonjour. Je suis très technologie. Je suis, comme disent les jeunes, ultra connected. Pas comme ce ringard de Jean Castex. Non, moi, je suis une sorte, comment vous dire, d'Elon Musk. Une sorte de Steve Jobs, mais en plus vivant.
En plus vivant. On peut faire un essai en direct, Gérard Collomb, hein?
Yes, comme disait Jones. Avec plaisir. Attendez, je me place devant mon micro.
Allez-y. Bon.
Bonjour, André Bourvil.
Non, là, je suis devant la reconnaissance faciale. Non, je ne suis pas André Bourvil, je suis Gérard Collomb.
On dit non, ça marche pas très bien, on dirait, votre truc, là.
Oui, ça bugue, on dirait.
Ça bugue,
attendez,
oui.
Attendez, je me replace devant la reconnaissance faciale. On refait un essai.
Allez-y, allez-y.
Bonjour, Gollum.
Oh, mais c'est quoi ça? Non, je ne suis pas Gollum, je suis Gérard Collomb. Mais non, franchement, quelle connerie parfois ces technologies à deux balles.
Ah bah écoutez, on va vous laisser. Hein. Merci Gérard Collomb. Notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a été obligée de se placer à l'isolement car elle est considérée comme cas contact. On va prendre de ses nouvelles. Bonjour Roselyne.
Oui, bonjour à tous et à toutes.
C'est bien de votre part de prendre les précautions pour les autres en vous isolant.
Oh, bah écoutez, la ministre vous dit merci.
Surtout que c'est au-dessus de 65 ans que le Covid est dangereux et que vous en avez bientôt 74.
Oui, alors là, l'ex-sociétaire des grosses têtes vous dit « je t'emmerde ». Toi-même.
En tout cas, on vous souhaite un test négatif, Roselyne.
Oui, oui, négatif, moi aussi. Comme les comptes des directeurs de théâtre. Négatif. Non, mais écoutez, ça leur fait du bien. Finalement, ils vivent comme Molière en son temps, sans une thune.
Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, hein, Roselyne Bachelot.
Vous savez, quand bien même, vous êtes gentil, mais quand bien même je tomberai malade, je serai toujours plus actif décédé que mon prédécesseur Franck Riester vivant.
Oh là là, stop. Bon, bah c'est
oui,
bon. Hein.
Oui.
Allez, non. Merci Roselyne. Christophe Castaner est devenu le nouveau chef des députés En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour Christophe Castaner.
Je peux vous dire, mon cher Laurent Caprol, que depuis qu'ils ont fermé les bars, je n'ai jamais autant vu ma femme. Très bizarre de passer toutes ces soirées avec la même personne.
Monsieur Castaner, on vous entend là. Vous êtes,
vraiment, c'est... Ah,
vous êtes sur l'antenne d'Europe là.
Ça parle, c'est quoi,
vous
c'est
êtes sur Europe 1, monsieur Castaner.
Ah, pardon. Oui, bonjour à tous. Et,
oui, bon.
Et bonjour à toutes et bonjour également à ma femme qui peut-être m'écoute. Bonjour chérie.
Christophe Castaner, vous êtes devenu le nouveau chef des députés En Marche à l'Assemblée nationale. Alors dites-nous, quelle va être votre méthode pour tenir ce parti de plus en plus dispersé?
Bien écoutez, ma méthode est très simple. Mmh. Je le crois, ce sera la même méthode que lors de mon passage au ministère de l'Intérieur.
Donc la fermeté.
Non, le flashball. Voilà. Le premier qui moufte, je lui crève un œil. On va voir s'il ne va pas filer droit, ce parti
bon,
de
bah,
la République
chance.
En marche.
Oui, c'est ça. Bonne chance. On va accueillir maintenant François Hollande, avec qui on va revenir sur ce sondage événement. Si l'élection présidentielle avait lieu demain, Emmanuel Macron ferait 23% et François Hollande 7%. Bonjour Monsieur le Président.
Française, français. Pardon, la technique, la Marseillaise s'il vous plaît.
Oh là, ah, carrément. Oui.
Française, français, chers compatriotes, Julie, monsieur Béliard, monsieur Mamène, monsieur Bitou, monsieur Vandel, pas encore arrivé.
Mais non.
J'ai décidé d'être candidat, j'avais oublié monsieur Cabrol, j'ai décidé d'être candidat, et je le dis de façon solennelle, à l'élection présidentielle de 2022.
Mais enfin, non, on n'a aucune chance. 7%, c'est nul.
Ah, 7%, c'est nul. Mais juste avant mon élection, 2012, comment on m'appelait? Vous en souvenez, même, Julie?
Non.
On m'appelait monsieur 3%.
Ah oui.
Et là, je suis à 7%. Et j'ai plus que doublé mon score. Et non, mais tous les feux sont au vert. Ça sent, je vous dis, ça se mêle, ça sent le triomphe.
Ah, bah, comme vous dites, oui. Et bien, dans ce même sondage, dans l'hypothèse, non pas d'une candidature de François Hollande pour le PS, mais celle de Ségolène Royal. Alors là, c'est pire. Bonjour Madame Royal, vous feriez 5% seulement.
Oui. J'ai vu ça. Mais dites donc, on fait un sacré couple de losers avec François. Non, écoutez, franchement, je ne comprends pas. J'ai pourtant passé la moitié de mon temps à critiquer Emmanuel Macron, hein, et l'autre moitié à essayer de rentrer dans son gouvernement. J'ai quelque part, vous êtes d'accord, hein, je prends un témoin, Michael Darmon, j'ai ratissé large sur le plan politique. Normalement, tout le monde aurait dû y triver son compte, hein. Les pros comme les anti, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui m'échappe.
Ouais, visiblement, cette stratégie n'a pas été comprise par les Français, en tout cas. Hein.
Oui, non, mais attendez, pardon, c'est quand même pas difficile à comprendre. Le gouvernement est nul et c'est pour cette raison que j'ai envie de travailler avec eux. Qu'est-ce qu'il y a de pas clair, cher Mme Leclerc ?
Bah vous, tiens. La preuve, vous seriez même derrière Nicolas Dupont-Aignan.
Non mais qu'est-ce qu'elle m'emmerde, celle-ci ? Écoutez, il faut remettre l'église au milieu du village. Je viens de signer sur LCI. Je suis une présentatrice télé. Voilà, je ne suis plus une femme politique. Évidemment que je fais un petit score. Faites l'hypothèse d'autres présentatrices. Sophie Davant, je ne sais pas, Tatania Silva de la météo. Ou tiens, même vous, hein, on verrait si vous feriez mieux que 5% en grosse moline.
On va arrêter là, je crois. Hein.
Non, je ne sais pas, allez-y non, Julie. Merci Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse qu'à retrouver, bien sûr, sur europe1.fr. Saluons Laurent Vassilian, Philippe Cavrivière. Et Arnaud Demanche, il est 8h56 sur Europe 1. Philippe Vandel nous a rejoint, c'est Culture Média. La matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Mais oui, bonjour Mathieu. Aujourd'hui en Culture Média, notre info média du jour, c'est le boycott de plusieurs mots sur des listes publicitaires sur Internet. Par exemple, 70% des recettes du magazine Cuisine Actuelle figurent sur une liste noire. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent couteau et alcool. Et ça vous fait marrer, mais c'est pas drôle pour eux. Explication avec Bruno Latapie de 20 minutes et Pierre Pétillot de l'Alliance de la presse d'information régionale. Imaginez maintenant des enfants de maternelle dans un EHPAD avec des nonagénaires. Et ben c'est ce qu'on peut voir dans la série documentaire d'un genre nouveau, Une vie d'écart sur Canal+, expérience sociale, expérience humaine, produite par la journaliste Caroline Delage qui sera mon invitée. Et puis, un gros oiseau, des chats, une tortue. Vous n'êtes pas au zoo, vous êtes chez Vincent Dedienne, le comédien. On voit tout ça dans son nouveau film « Parents d'élèves » qui sort aujourd'hui. Et il sera ici, à ce micro.
Culture Média, c'est la matinée qui continue. Et c'est bien sûr sur Europe 1 avec Philippe Vandel. Pour ma part, je vais vous souhaiter une très belle journée à présent. Je reviens demain matin en direct à partir de 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.